La légende de Margéo. À gauche de la voie qui mène de Plouec à Pontrieux, s'élève la gentilhommière de Kercabine. Ce n'est aujourd'hui qu'une grande maison d'un caractère tout moderne. Ce fut jadis un manoir d'importance, à en juger par la splendide avenue qui y conduisait et qui subsiste encore. Les seigneurs de Kercabine passaient pour de joyeux viveurs, un peu détrousseurs de route, mais surtout grands trousseurs de jupons. Ainsi nous les représente une vieille chanson populaire dont quelques couplets seulement ont survécu. Les jeunes filles, en ce temps-là, ne se risquaient guère aux abords du château. « Non, je n'irai pas toute seule à Kercabine prendre du feu, car le seigneur est à la maison qui me lèverait mon tablier. » Il est vrai que, quelques vers plus loin, la même chanson ajoute crûment « Il n'y a pas une fille en Plouec qui n'est à Kercabine couchée. » Le vieux de Kercabine et ses gars étaient, paraît-il, de terribles séducteurs, aussi magnifiques d'ailleurs que violents. Il y avait chez eux une chambre toute remplie d'anneaux d'argent et d'anneaux d'or. Kercabine et ses fils y faisaient entrer le matin leur maîtresse de la nuit et leur permettaient de puiser au tas à main pleine. Les jolies paysannes d'alentour rêvaient dans leur lit clos, sous le chaume, de cette chambre merveilleuse. Elles en causaient entre elles, tout bas au lavoir, quelquefois à l'église. Le trésor de Kercabine exerçait une sorte de fascination sur tout le pays, à 7 lieues à la ronde. À Plouec, à Plouézal, à Guingamp même, quand on voyait passer une fille de peu avec un châle rouge ou violet sur les épaules et une croix d'argent au cou, on disait « En voici une qui revient pour sûr de Kercabine ». Pendant la Révolution, le manoir et le vaste domaine qui en dépendaient furent revendus comme biens nationaux. C'est sans doute à cette époque qu'ils passèrent aux mains de mon grand-oncle Margéo. Ce farouche ancêtre a laissé derrière lui une légende fantastique qui vaut d'être mise par écrit. Monsieur Luzel, dans ses Veillées bretonnes, en a donné un intéressant chapitre. C'est une restitution à peu près intégrale que je voudrais tenter. Il y a presque 2 ans, j'eus le plaisir d'être l'hôte des propriétaires actuels de Kercabine. L'un d'eux, esprit très cultivé, réalise pleinement le type, aujourd'hui malheureusement trop rare, du gentleman farmer bas breton. Il dirige en personne l'exploitation de ses terres et engrange lui-même ses gerbes. Il mène la vie rude et simple de son nombre domestique. Il se rend au champ avec les journaliers, guide et surveille leurs travaux, parle volontiers leur langue et ne dédaigne pas de s'asseoir au milieu d'eux devant l'âtre énorme de la cuisine quand viennent les longues soirées d'hiver, mères des longues causeries. « Ça, lui demandai-je un jour, est-il encore bruit dans la contrée du fameux cheval de Margéo ? Interrogez mes gens, vous n'en trouverez pas un qui ne vous affirme l'avoir entendu. C'est en effet de quoi je pus me convaincre. Les garçons, les servantes, le petit pâtre furent unanimes dans leurs réponses. Voilà, on est tranquillement à se chauffer au coin du feu, ou bien on vient de s'étendre au lit, quand, tout à coup, dans la nuit sonore, au loin, retentit le galop effréné d'un cheval. Dipadrap, dipadrap, dipadrap. Cela fait un train d'enfer. À mesure que le fracas se rapproche, on perçoit le sifflement des coups de cravache cinglant éperdument la bête. Le cavalier nocturne ne cesse d'exciter sa monture que lorsqu'il est arrivé à Kercabine. Dans la cour, il fait halte. On l'entend qui met pied à terre, tandis que le cheval halète avec force. Se trouve-t-il dans le personnel de la ferme quelque domestique gagé récemment ou qu'on a oublié de mettre sur ses gardes, il ne manque jamais de se lever. C'est apparemment un hôte inattendu, se dit-il. Et il s'empresse pour aller débrider la bête et lui faire place à l'écurie. Grande est sa surprise en constatant que la cour est déserte, qu'il n'y a là ni cheval ni cavalier. Lorsque le lendemain il raconte la chose, ce sont les autres qui s'étonnent de son étonnement. « Ah, vous ne saviez donc pas ? Mais c'est le cheval de Margéo !» Margéo, tonton Margéo, comme l'appelait mon grand-père, était une espèce de géant à tête carrée, avec un coup de taureau et des muscles d'athlète. On citait de lui des exploits incroyables. Par exemple, il renversait un bœuf sur le dos en l'empoignant par les deux cornes. D'un coup de pied, il défonçait un fût plein jusqu'à la bonde. Ayant manqué un lièvre à la chasse, il en conclut que sa pierre à fusil était mauvaise et l'écrasa entre ses doigts comme une noisette. Bref, c'était une brute superbement douée et qui eût figuré avec honneur parmi les héros d'Homère. Ses colères étaient épouvantables et la moindre contrariété le mettait hors de lui. Sa face alors devenait pourpre et ses veines gonflées ressemblait à ces grosses racines qui se tordent dans nos chemins creux. Il ne connaissait en fait de loi que celle de ses appétits et de ses convoitises. De la morale commune, il ignorait le premier mot. Adolescent, on voulait faire de lui un prêtre. Il prit des mains de sa mère l'argent destiné à payer les frais d'études, se rendit à Tréguier où était le collège, y passa une nuit à boire avec des matelots du port, apprit d'eux un certain nombre de refrains obscènes et rentra chez lui le lendemain en disant qu'il n'avait pas besoin de s'instruire davantage et qu'il en savait désormais assez. « C'est bien, mon garçon !» grogna le père Margeot. « Tu tâteras donc de la charrue !» Il en tâta, en effet. C'est-à-dire qu'il détella le meilleur des chevaux de labour, l'enfourcha prestement et s'en alla au diable quérir fortune. C'était le temps des premières fusillades entre blancs et bleus. La dure discipline des troupes républicaines ne pouvait convenir à Margeot le fils. Il essaya la chouannerie, mais un freluquet de royalistes, l'ayant un jour réprimandé pour avoir fait rôtir un poulet dans l'église de Quatascorn, avec des bûches empruntées à une statue en bois de Saint Fiacre, Margeot souffla sur le petit royaliste qui s'évapora et, dégoûté du commerce des chouans, il se mit à guerroyer pour son propre compte, tout seul d'abord, puis à la tête d'une bande de pillards qui sollicitèrent l'honneur de travailler sous ses ordres. La pacification de la Bretagne le rendit à la vie privée. Il vint s'établir en son manoir de Kerkabine, qu'il avait acheté au rabais, parce qu'il avait pu le payer en beaux écus sonnants. Il y installa près de lui ceux de ses routiers qui s'étaient distingués par leur audace et surtout par une complète absence de scrupules. Kerkabine devint de la sorte une colonie de forbans. Sans doute le temps était passé des grandes razzias où, dans une semaine, on pouvait rançonner tout un canton. Mais Margeot avait un génie souple qui se pliait aisément à la nécessité de combinaisons nouvelles. Il transforma Kerkabine en un coupe-gorge. Le lieu s'y prêtait. Pas d'habitation dans le voisinage. L'avenue, immense, solitaire, avec des arbres aux frondaisons gigantesques qui y entretenaient une perpétuelle nuit. La route, enfin, toute proche et fréquentée à toute heure par les voyageurs qui, de Lannion, de Bégard ou de Guingamp, se dirigeaient sur Pontrieux. Tous, désormais, durent payer péage au maître de Kerkabine ou à ses associés. On leur prit la bourse toujours et quelquefois la vie par-dessus le marché. Le coup fait, c'était à l'intérieur du manoir de formidables souleries. On y conviait, souvent de force, des filles d'alentour, les arrières-nièces de celles que les anciens sires de Séan menaient le matin faire visite à la chambre dorée. Margeot présidait ses agapes avec sa brutalité joviale de reître. Lorsqu'un des compagnons roulait à terre, ivre-mort, il riait d'un énorme rire à faire trembler les poutres. Il était heureux. Quant à lui, il buvait 12 heures sans désemparer et se levait de table, les jambes solides, la tête saine. Par exemple, il ne touchait jamais aux femmes. La tradition le dit expressément, ce barbare mourut vierge. Un soir, un des malandrins de la bande revint blessé, la figure en lambeaux, le corps lardé de coups de poignard. Son sang pleuvait autour de lui en larges gouttes. Margeot, qui jamais ne paraissait dans ce genre d'expédition, afin de se ménager une apparence d'honorabilité et d'en pouvoir couvrir ses compères le cas échéant, Margeot donc, fronça le sourcil et demanda durement au misérable près de défaillir « Qui est-ce qui t'a mis dans cet état ?» L'homme, après avoir craché quelques dents mêlées à quelques caillots, trouva la force de raconter son aventure. Il avait eu vent du passage d'un riche marchand de cochons. Il avait voulu l'arrêter à lui seul pour ne pas laisser perdre une aussi bonne aubaine. Mais il avait eu affaire à trop forte partie. « Et le bourgeois ?» gronda Margéo, et repartit à toute bride dans la direction de Pontrieux. « C'est bien, va te coucher. Hé, Nanik !» Une vieille servante, à la peau rugueuse et plissée comme une écorce de chêne, accourut à l'appel du maître. « Conduis-moi cet imbécile au lit, et badigeonne-le des pieds à la tête avec tes onguents de sorcière !» Tandis que Nanik emmenait le blessé par une porte, Margéo sortait par l'autre, une lanterne sourde à la main. Il suivit l'avenue, courbé en deux, les yeux fixés à terre, promenant la lumière de son fanal à droite et à gauche, inspectant les herbes fraîchement foulées et où des taches rouges se montraient çà et là. Il marcha ainsi jusqu'à la barrière qui s'ouvrait sur le grand chemin. Là, il se redressa et se mit à siffloter un vieil air breton au final mélancolique. De loin, on eût dit quelques pâtres inoffensifs rassemblant ses bêtes. C'était le terrible Margéo qui sifflait ses bandits. Il se fit un bruit de branches froissées, puis de respirations haletantes. Des formes noires s'approchèrent en rampant sur le ventre avec mille précautions. « Il faut rentrer, » dit Margéo. « Nous avons à causer. » Un quart d'heure plus tard, tout le monde était réuni dans la grande salle du manoir. Le chef seul était assis. Les autres se tenaient debout, les mains derrière le dos ou les bras croisés sur la poitrine, en silence. Margéo commença. « Voici de quoi il retourne. Cet animal de Cadovraz s'est laissé saigner comme un simple porc par un marchand de cochons. À l'heure qu'il est, le marchand de cochons, qui a gagné Pontrieux, a sans doute déjà porté plainte. Il faut nous attendre à une visite des enfants de Marie Robin, qui est le sobriquet donné en Bretagne aux gendarmes. C'est d'autant plus désagréable que Cadovraz a eu soin de semer son sang tout le long de l'avenue. On va faire une descente de justice à Kerkabine. Si j'étais soupçonné, moi, vous tous, vous seriez perdu. Il faut à tout prix, dans notre commun intérêt, que je sorte indemne de ce mauvais pas. Je pense du moins que c'est votre avis. Certes, s'écrièrent les hommes. Claire Cheventon, reprit Margéo en interpellant l'un d'eux, toi qui as une superbe écriture de tabellion, sieds-toi à mon côté. Voici papier, plume et encre. Écris. Les bandits se penchèrent en avant, tendirent l'oreille pour mieux écouter. Margéo dicta « Au citoyen procureur à Guingamp, citoyen magistrat, ce jour-ci, 15 floréal en 9, le nommé Cadovraz s'est présenté sur les 10 heures de nuit en ma maison de Kerkabine. Il m'a dit avoir eu en route une vive altercation avec un passant, de quoi faisaient foi les blessures multiples qu'il portait tant à la tête que dans le reste du corps. Je l'ai hébergé, ainsi que me le commandait l'humanité, sans lui demander aucune explication autre que celle qu'il jugeait à propos de me donner. Au coup de minuit, ma servante m'est venue annoncer qu'il avait rendu l'âme. J'ai cru qu'il était de mon devoir de t'informer immédiatement de ce fait. J'attendrai tes ordres avant de procéder à l'inhumation. Citoyen magistrat, je t'envoie mon salut fraternel, Margéo. » Margéo se tourna vers l'assistance. « Avez-vous compris ? » interrogea-t-il avec un gros rire enchanté de sa ruse. « Oui, répondit un des hommes, tu livres à la justice Cadovraz. » « Et je le livre mort, afin qu'il ne lui prenne pas fantaisie de nous dénoncer. Il suffira de quelques coups de couteau de plus. Dans le nombre, cela ne paraîtra point. » Les bandits s'extasièrent. Margéo leur apparut grandi de plusieurs coudées. « Donc, reprit-il, que l'un de vous monte là-haut et qu'il l'achève, que cela se fasse vite et proprement. Quelqu'un s'éclipsa, mais pour revenir presque aussitôt. « Ça y est, » dit-il. Le clerc Cheventon se leva. Quoiqu'il eût tourné le dos au séminaire, il était resté dévot. En petit comité, on l'appelait Person Kerkabin, le recteur de Kerkabin. Il récita le De Profundis à voix haute. Margéo, cependant, remettait le pli, dûment cacheté, à un robuste gaillard, son aide de camp. « Il importe que tu sois à Guingamp avant l'aube, Dolo. Prends Awelik, le bon cheval qui va comme le tonnerre. » Dolo partit, le De Profundis terminé, Margéo congédia les bandits. Il ne garda près de lui que Cheventon. Comme il l'avait prévu, au point du jour, les gendarmes de Pontrieux firent irruption dans la cour du manoir. Il se rendit au-devant d'eux, les reçut sur le perron, leur souhaita la bienvenue. Les gendarmes qui croyaient le surprendre furent quelque peu décontenancés. « Tu nous attendais donc ?» demanda le maréchal des logis. « N'est-ce pas le citoyen procureur de Guingamp qui t'envoie ?» Ce fut une scène du meilleur comique. Margéo la prolongea par plaisir. C'était un fantaisiste. « Les traces de sang conduisent chez toi. C'est péremptoire !» Ainsi parlait le maître des archers. « Je ne le nie pas, » répondait ce farceur de Margéo. « C'est donc le chenapan que nous cherchons est ici. »« À qui le dis-tu »« Livre-le. Suivez-moi. » Margéo précéda les gendarmes dans l'escalier. Au premier étage, il ouvrit une porte. Dans la chambre, sur un grabat, était étendu Cadovraz. Au chevet du lit, Nanik et Grenette en rosèrent. « Le voilà, votre chenapan !» prononça Margéo avec flegme. « Mais il est mort !» s'écria le maréchal des logis. « Dieu ait pitié de son âme !» conclut Cheventon. « Ça se complique !» murmura un des enfants de Marie Robin en remarquant la perplexité de son chef. Alors seulement, Margéo exposa comme quoi il avait déjà adressé un express au citoyen procureur. Il finissait à peine de parler qu'un galop de cheval retentit. Dolo était de retour. Il annonçait la prochaine arrivée du magistrat. Vers les 8 heures, celui-ci parut. Il eut pour le maître de Kerkabin des effusions de tendresse, promis de faire reconnaître sa noble conduite au premier consul. Ce matin-là, il y eut au manoir un déjeuner fin, d'où le procureur se leva en se pourléchant les lèvres. Quant aux gendarmes, nonobstant leur maintien compassé, ils titubaient. Il s'en fallut de peu que le marchand de cochons ne fût poursuivi pour avoir causé mort d'homme. Les funérailles de Cadovraz furent célébrées en grande pompe. Le recteur de Plouec prononça sur la fosse un véritable sermon où le mort était représenté comme un martyr, mais où était surtout exaltée la charité, la générosité, la magnanimité et toutes les autres vertus en T de Margéo. D'excellentes femmes pleurèrent d'émotion. Le camarade qui avait porté à Cadovraz le dernier coup s'en félicita comme de la meilleure action qu'il lui eût été donné d'accomplir. Bref, ce fut une fête régionale que cet enterrement. Elle finit à Kerkabin en une véritable orgie qui dura jusqu'au lendemain. Des tonneaux de vin d'Espagne y coulèrent comme des fontaines. On en but à pleine chopine. La rosée du matin perla le long des douves sur des corps d'hommes ou de filles qui n'avaient pu gagner un gîte. Nanik elle-même, si sobre, goûta de la boisson cette nuit-là et s'endormit sur l'âtre, le nez dans la cendre. Seule, Margéo ne s'était enivrée ni de son succès ni de son vin. Allongé sur un lit de camp, il réfléchissait, se démontrait à lui-même que les temps de la pêche en eau trouble étaient passés, ébauchait des plans pour l'avenir, ruminait 1000 projets et, en véritable homme d'action, ne consentit à s'endormir qu'après avoir irrévocablement fixé son choix. Le lendemain, dès son réveil, de sa grosse écriture lourde, il arrêta sur le papier les lignes essentielles de son nouveau programme. Plus de banditisme, c'était trop compromettant et pas assez fructueux. Il rassembla ses hommes dans la cuisine, toutes portes closes, et leur tint à peu près ce langage. « Camarades, c'est fini. Il faut nous séparer. Le métier que nous avons fait ensemble jusqu'à ce jour ne nous rapporterait plus rien qui vaille. Que chacun court son bord. Mais auparavant, à chacun son dû. Tendez vos mains. » Il distribua entre tous une dizaine de 1 000 francs en or. À mesure qu'ils passaient de l'un à l'autre, il demandait « Que comptes-tu faire de cette somme ?» Celui-ci répondait « Ma foi, je vais me goberger jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. » Celui-là « Telle métairie est en vente, je l'aurai peut-être pour ce prix. » Un troisième « J'ai promis mariage à Loïsaïque, la couturière, c'est de quoi payer notre noce. » La plupart, grisés par cette fortune, n'aspiraient qu'à en jouir au plus tôt. 3 ou 4 seulement s'étonnèrent, regardèrent Margéo avec des yeux où la stupeur était mêlée de courroux. « Pourquoi nous renvoies-tu ? » grogna l'un d'eux. « Je ne vous renvoie point, vous, » répondit Margéo. « Il me plaît au contraire que vous restiez près de moi. Mais ceux qui se tiennent pour satisfaits, qu'ils s'en aillent. » Et il les congédia d'un air hautain. Demeuré seul avec les autres, il sortit de sa longue houppelande verdâtre le papier graisseux sur lequel il avait rédigé son plan d'avenir. « Or ça, » dit-il, « Pipiluc, Cloarec Cheventon, Fanchantigne, et toi, notre ancien à tous, Goéter Coz, vous êtes de francs gaillards. Puisque votre avis est que nous continuions à travailler ensemble, topez là, je suis votre homme. Mais d'abord, entendons-nous bien. De nos équipés d'antan, il ne saurait plus être question. Je veux finir dans mon lit, honorablement, et non pas épouser Marie Guillotine à l'article de la mort. Le sage doit changer d'habit selon le temps. Nous serions des sots de nous obstiner à vouloir gagner notre provende dans les douves des grands chemins. Il y a désormais trop de gendarmes. Je ne vois plus pour nous qu'un métier. » Margéo s'interrompit un instant. Les 4 truands dressèrent l'oreille. « C'est un métier paisible, » reprit-il, « et qui, pour être bien fait, n'exige qu'un peu de force et beaucoup d'adresse. Les profits sont grands, les risques légers. Pas de relations incommodes avec la gendarmerie. Tout au plus quelques explications à de rares intervalles avec les gabelous qui sont gens faciles à convaincre. « Pardieu ! » s'écria Claire Cheventon qui comprenait vite. « Tu veux faire de nous des fraudeurs ? C'est une belle idée, ma foi. Vive la fraude ! » « Est-ce aussi votre sentiment ? » demanda Margéo aux 3 autres. « Qu'en dis-tu, Goéter Coz ?» Goéter Coz ne semblait pas très enthousiaste de la proposition. Il souleva des objections grincheuses. Métier pour métier, pourquoi ne s'en tenir point à celui qu'on exerçait depuis si longtemps et qui ne portait malheur qu'aux imbéciles, comme Cadeau Vraz ? À son âge, c'était dur de recommencer sa vie. Puis, quels avantages y trouverait-on ? Au lieu de guetter le voyageur en fumant la pipe, tranquillement allongé comme un cantonnier qui se repose, dans l'herbe ou les feuilles séchées, il faudrait grelotter le long des grèves, s'étendre sur la dure dans les roches mouillées, se crever l'œil à épier une voile qui souvent se ferait attendre plusieurs nuits, attraper le mal froid, les rhumatismes, s'en revenir à moitié perclus, et tout ça pour quelques aunes de dentelle, pour quelques paquets de tabac. En vérité, était-ce la peine ? Margéo le laissa dire jusqu'au bout. Quand le vieux eut fini de bougonner, « Goéter, » prononça le maître de Kerkabine, « avec toute ton expérience grisonnante, tu n'es qu'une bête. » Il entra alors dans les détails de son plan, développant point par point les notes jetées sur le bout de papier graisseux. Premièrement, il s'entendrait avec les corsaires de Paimpol qui faisaient les voyages de Jersey à la Grande-Île, l'Angleterre évidemment. Secondement, les marchandises seraient débarquées à l'île Verte, à l'embouchure du Trieux. Des bateaux de Logivy et de Landmodez les transporteraient de nuit en rasant la côte, le long des landes pierreuses et désertes de Plourivaux et de Quimper-Guézennec, au souterrain qui, partant du château de la Roche-Jagut, venait déboucher sur la rivière. Les habitants de ce château tombé à l'état de simple ferme étaient pauvres et besogneux. Ils ne demanderaient pas mieux que de participer aux bénéfices de l'association. À l'aube, les charrettes pleines quitteraient la cour du manoir et se dirigeraient sur Kerkabin, l'entrepôt central. Les douaniers n'y verraient que du feu. Comment suspecter de paisibles tombereaux qui paraissent chargés de betteraves, de patates ou de blé et qui cheminent au pas de leur attelage, conduits par un brave homme de paysan à mine bonasse, le fouet au cou et la pipe aux dents? « Car tu pourras fumer ta pipe, Goethercoz, » conclut Margéo, « si toutefois tu consens à être ce conducteur. Ne sera-ce pas plaisir pour toi, vieux flâneur de grande route, de t'en aller ainsi, au joli petit soleil du matin, criant « hu » à tes bonnes juments, écoutant siffler les merles dans les haies et bonjourant d'un air cordial messieurs les gabelous ?» Pour le coup, Goethercoz fut conquis. Comme le loup de la fontaine, cet idéal de félicité le fit presque pleurer de tendresse. Margéo n'eut plus qu'à distribuer les autres rôles. Il fut convenu que Claire Cheventon, l'homme des brouillards, se fixerait à l'Ogivie, à portée de Paimpol. Pipiluc se bâtirait un ermitage à l'île Verte, et Fanche-Antigne s'engagerait soi-disant comme domestique à la Roche Jague pour monter la garde à l'issue du souterrain. Quant à Margéo, inutile d'ajouter que, en sa qualité de bailleur de fonds et d'organisateur, il se réserverait la direction suprême de l'entreprise. Après avoir été le coupe-gorge des marchands, Kerkabin devint leur lieu de rendez-vous. Toute la contrée fut inondée de colporteurs. Il était rare qu'une journée se passât sans qu'on vît s'arrêter au bourg de Plouec deux ou trois de ces batteurs de pays. À l'auberge où ils descendaient, ils faisaient mine de s'informer des principales maisons de la commune. En première ligne, on leur désignait Kerkabin. Ils s'y rendaient de l'air du monde le plus naturel. Il faut croire qu'ils y trouvaient affaire avec le maître du lieu, car ils y restaient parfois de longues heures et ne s'en allaient qu'à moitié gris, chantant sur tous les tons la louange de Margéo, de Monsieur Margéo, le mieux accueillant et le plus conciliant des acheteurs. Ce qu'ils ne disaient pas, mais ce qu'on aurait pu remarquer sans peine, c'est qu'ils sortaient de Kerkabin avec plus de marchandises qu'ils n'en trimbalaient en y entrant. Le lecteur l'a déjà compris, tous ces colporteurs n'étaient que des agents de Margéo. C'est par leur intermédiaire qu'ils déversaient sur tout l'arrondissement de Guingamp et même au-delà les 1000 objets de contrebande emmagasinés dans ces caves et dont la provision était sans cesse renouvelée par de continuels arrivages. Ce pirate de Margéo avait le génie de l'organisation. 2 mois lui avaient suffi pour créer et mettre en branle tous les rouages de cette singulière entreprise. 3 goélettes paimpolaises, affrétées par lui, sillonnaient pour son compte la Manche et même la mer du Nord. De temps en temps, il en venait mouiller une dans les eaux du Trieux, à l'entrée de la rivière jouxte l'île Verte. Là, dans les ruines d'un ancien couvent, Pipiluc attendait. Un canot abordait l'île, y débarquaient de lourds ballots. À la tombée de la nuit, Pipiluc grimpait sur une roche et y allumait un feu de brande. Les douaniers de la côte disaient en se moquant « Allons, voilà l'ermite d'Enesglaz qui fait cuire ses patates en plein vent. » Enesglaz, c'est l'île Verte. Pipiluc n'était plus connu que sous ce nom. Il avait pris à tâche de le justifier, ne se montrant jamais que vêtu d'un froc de moine qu'un chapelet à gros grains serrait à la ceinture. Il avait là-dessous d'humbles airs confits à tromper le pape en personne. On eût difficilement trouvé une tête d'une niaiserie plus béate. Aussi commençait-on à lui bâtir dans le voisinage, à Landmodez, à Pleubian, à Ploubazlanec, une réputation de sainteté. Vous pensez si Claire Cheventon et lui s'en faisaient des gorges chaudes à chacune de leurs rencontres. Or, dès que Claire Cheventon voyait luire le feu de Pipiluc, il accourait, dans une de ces fines embarcations de l'Ogivie qui semblent raser l'eau comme des mouettes. Quatre gars robustes maniaient les avirons, car on voguait à la rame sans jamais hisser la voile qui eût éveillé l'attention des gabelous. À l'île, on cassait le cou à quelques litres de rhum pur jamaïque, tout en procédant au chargement. Puis, avec la marée montante, on mettait le cap sur la roche Jague, où l'on arrivait toujours avant l'aube. Ce repère féodal avait été aménagé en véritable dock. Fanch Antigne, qui en était le directeur, s'acquittait consciencieusement de sa fonction. Le fermier et ses fils remplissaient l'office de débardeur. Au point du jour, par les routes détournées, à travers les landes de Botloy et les Mézous, qui dominent Pontrieux, on entendait claquer le fouet de Goethercoz. Les Mézous sont les hauts plateaux livrés à la culture. Le vieux chenapan était devenu un parfait charretier. C'était plaisir de le voir cheminer à côté de son attelage, causant avec ses bêtes comme un personnage des glogues rustiques. Tout allait pour le mieux. Les bénéfices étaient considérables. À chaque fin de mois, Margéo, homme probe, en faisait la répartition au prorata des services. Une prospérité jusque-là inconnue se répandait dans la contrée. Le seigneur de Kerkabine, de jour en jour plus riche, se montrait de plus en plus libéral. Sa gloire éclipsait déjà celle de ses légendaires devanciers. Il vivait en abab breton, faisait à tous les pauvres qui se présentaient à sa porte des largesses quasi royales, dotait les jeunes filles, tenait table ouverte, y réunissait les débris de tous les partis et de tous les régimes, renipait avec une délicatesse de gentilhomme d'anciens émigrés nécessiteux, hébergeait pendant des semaines entières des jacobins hirsutes, invitait à ses chasses toute l'administration impériale du département, faisait restaurer à ses frais la si jolie chapelle de la belle église et construire pour le recteur de Plouec un magnifique presbytère, se créait, en un mot, la plus extravagante des popularités. Le préfet avait sollicité pour lui la croix. Le peuple le bénissait. Qui sait ? Il allait être élu membre du corps législatif, sans doute. L'empereur, qui se connaissait en homme, l'eut promptement distingué et attaché à sa fortune. Ce bandit bas breton ne pouvait manquer de plaire par son côté pittoresque et quelque peu condottière au grand Napoléon, le seul capitaine de son temps qui lui inspira du respect, le seul chef sous lequel il eût volontiers accepté de servir. L'avenir de Margéo s'annonçait plein de promesses. Les extraordinaires prédictions des tireuses de cartes, qui fréquentaient parfois à Kerkabine, semblaient près de se réaliser. Brusquement, tout s'effondra. Ne fallait-il pas que la morale se vengeât de ce soudard qu'il avait si souvent et si brutalement souffleté ? Saluons-la. La voici qui entre en scène, sous l'habit vert, l'honnête habit d'un gabelou. Un matin, Goethercoz, après avoir remisé sa charrette dans la grange de Kerkabine, s'en vint d'un air soucieux trouver le maître. « Quoi donc ? » demanda Margéo. « Ton voyage s'est-il fait à vide que tu es si piteuse figure ?»« Je t'apporte au contraire un fût bien plein, un lourd tonneau de gin dont le poids a failli défoncer la voiture. »« Et c'est cela qui te rend maussade ?»« Pas précisément. » Goether tenait dans sa dextre sa pipe éteinte, une vieille pipe crasseuse, aussi noire que son âme. À petits coups, il en heurtait le fourneau renversé contre la paume de sa main gauche. Lorsque le culot se fut enfin détaché, il continua. « Je ne sais, mais depuis quelques jours, je me croise en route avec un bonhomme qui ne me dit rien de bon. Tu ne le connais pas ? Non. » C'est un nouveau venu dans le pays, mais ou je me trompe fort, ou c'est un ambulant. On appelait ainsi des douaniers qui, d'habitude, portaient des vêtements bourgeois et formaient comme la police secrète de la douane. Bah, est-ce que tous les gabelous ne sont pas à notre dévotion ? Nous les payons assez cher, fichtre. Je te dis ce que j'ai vu. Écoute mon conseil, méfie-toi. C'est bien, on se méfiera. Est-ce tout? La barrique que j'ai apportée n'était pas facile à dissimuler, poursuivit Goethe Koz, en tirant ses mots par les cheveux. Explique-toi donc enfin, vieille brute! S'écria Margéo, impatienté. Eh bien oui, là! L'homme m'a interpellé d'un ton goguenard. Voilà une belle charretée de fumier, m'a-t-il dit. Il y aura de quoi moissonner après ça. Je lui eusse volontiers fendu le crâne, mais tu as défendu les coups. Cette fois, le vieux Goethe avait lancé toute sa phrase d'un seul jet. Margéo arpentait la salle à grands pas. C'était signe chez lui de graves préoccupations. Il avait les mains derrière le dos et faisait craquer les os de ses doigts avec le bruit sec d'un fusil qu'on arme. « Cette barrique est dans la grange ? » s'enquit-il au bout d'un instant. « Va-t'en dire qu'on la porte ici ?»« Oui, triple bête, ici où nous sommes !» Quand Margéo prétendait avoir acheté tous les gabelous de la région, il exagérait. D'abord, il n'eut pas commis la sottise d'essayer de corrompre les chefs. Et, supposez même qu'ils eussent accepté un marché de ce genre, c'eût été se mettre à leur merci. À quoi bon d'ailleurs? Ils n'avaient rien à démêler avec les chefs. Ce ne sont pas eux qui montent les gardes de nuit dans les petits sentiers de falaises au long des flots. Non, il avait tout bonnement désintéressé quelques employés subalternes, quelques pauvres hères qui ne pouvaient trouver de profit à faire leur devoir qu'à condition d'y manquer sans cesse. C'était pour la plupart des malheureux chargés de famille. Ils servaient tant bien que mal le gouvernement, qui les payait à peine. Ils fermaient les yeux sur les agissements de Margéo, qui leur assurait l'aisance. Un d'eux, un sous-patron, avait reçu de l'avancement une quinzaine de jours auparavant et avait dû rejoindre d'urgence son nouveau poste. Un tout jeune homme l'avait remplacé, un Français de l'Est, à petite frimousse imberbe, mais résolue. Margéo avait été prévenu de cette mutation par un de ses amis de Pontrieux. Mais le billet de l'ami ajoutait « Rien à craindre, c'est un blanc-bec, un enfant presque une fille. » Margéo, dès lors, ne s'en était pas autrement soucié. En quoi il eut tort? Les plus forts ont de ces vertiges. On ne saurait penser à tout. C'est ce que Margéo se disait le soir du jour où il eut avec Goethe Koz la conversation relatée plus haut. Il pouvait être environ 9 heures. Soudain, un paysan, le garçon d'écurie, se précipita dans la cuisine en poussant un cri d'alarme. « Les gabelous !» D'un coup de poing, Margéo l'abattit sur le sol. « Imbécile » murmura-t-il entre ses dents. « Cela t'apprendra à te mêler de ceux qui ne te regardent pas. » Et calme, il prit une chandelle sur la table de la cuisine pour éclairer ces messieurs de la douane. « À quoi dois-je l'honneur de cette visite tardive ?» Ils étaient une vingtaine d'habits verts, presque tous des stipendiers du maître de Kerkabine. Mais à leur tête s'avançait crânement le nouveau sous-patron. Il avait en effet la mine délicate et menue d'une fillette. On lui eût donné 16 ans tout au plus. Les yeux seuls étaient d'un homme, des yeux noirs, qui regardaient droit devant eux, de clairs yeux virils aux prunelles énergiques et volontaires. Il s'inclina légèrement. « Monsieur, répondit-il, je soupçonne fort cette maison d'être un dépôt de recel pour des marchandises de contrebande. Pas plus tard que ce matin, il y a été transporté un foudre d'alcool. Je me vois dans la nécessité de procéder à une perquisition domiciliaire. Je vous serai reconnaissant de me faciliter cette tâche. Au besoin, je vous en requiers. Je croyais que ma maison et moi devions être au-dessus de semblables soupçons, dit Margéo. « Ce n'est pas d'hier que j'habite le pays. Je n'y suis pas, comme vous, un nouveau venu. Faites, monsieur. Toutes les portes vous sont larges ouvertes. Mais d'abord, je vous prie, commencez par cette pièce. » Cette pièce, c'était la vaste salle à manger du château. À peine Margéo en eut-il poussé les battants que le sous-patron s'arrêta interloqué. D'un geste machinal, il se découvrit. Au milieu de la salle, un grand catafalque était dressé. Les arêtes du cercueil se dessinaient sous le drap mortuaire aux plis amples dont les franges traînaient à terre. De vieilles femmes étaient agenouillées de ci, de là. L'une d'elles récitait les longues prières de la mort, les autres marmonnaient les répons. « Voulez-vous que je renvoie momentanément ces femmes ?» demanda Margéo d'un ton pénétré. « Non, monsieur, répondit le douanier, c'est chose sacrée que la mort. Je n'ai rien à voir ici. » Il fit néanmoins quelques pas dans l'appartement, mais ce fut pour prendre le rameau de buis qui trempait dans une assiette pleine d'eau bénite au pied du catafalque et pour en asperger le drap mortuaire. « Merci, monsieur, prononça Margéo. Celui à qui vous venez de rendre cet hommage fut le plus loyal des serviteurs. Je le vénérais à l'égal d'un père. » Sur les joues du maître de Kerkabine, deux larmes coulèrent lentement. Le jeune sous-patron se retira fort ému. Il visita les autres chambres par acquis de conscience, avec une hâte visible d'en finir, peut-être même avec le regret d'avoir commencé. Margéo le reconduisit jusqu'au bout de l'avenue, après lui avoir vainement offert de le faire véhiculer jusqu'à Pontrieux. « Bien joué, les vieilles !» s'écria le dit Margéo en rentrant dans la salle à manger. « Mais voilà assez de pâtes nôtres. Nanik, enlève le couvert !» Bénitier, cierge, drap mortuaire, bière de chêne et croix d'argent, en un clin d'œil, tout eut disparu. Et, dans la pièce immense, resta seul en sa nudité ventrue, le tonneau de gin que 5 ou 6 planches, clouées en hâte, avaient suffi ce tantôt à travestir en cercueil. Margéo, exultant, ordonna d'y mettre la chantepleure. Jusqu'au lendemain, elle coula. Lèvres d'homme, lèvres de femme y burent à même, comme au robinet d'une fontaine publique. Ce fut la dernière orgie dont Kerkabine ait conservé la mémoire. On ne joue pas impunément avec l'ankou. Introduite à Kerkabine pour y faire un personnage de farce, la mort prit son rôle au sérieux. Elle ne quitta désormais la maison qu'après y avoir laissé place nette derrière elle. Le corps de garde des douanes à Pontrieux est situé à l'extrémité du quai, en dehors de la ville. En 1805, il n'y avait sur ce quai qu'une auberge, un bouge plutôt, dont l'enseigne était un calembour, à l'encre noire. 9 heures de nuit, le couvre-feu venait de sonner. Un cavalier mit pied à terre au seuil de l'auberge. L'hôte parut dans le cadre de la porte, élevant un fanal au-dessus de sa tête pour reconnaître le nocturne voyageur. « C'est donc vous, maître Margéo, » fit-il joyeusement. « J'en étais sûr. Demandez à ma femme. Je lui disais à l'instant, il n'y a qu'un cheval pour avoir ce trot de velours. Depuis la tournée de Guingamp, voyez-vous, rien qu'au bruit de son sabot, je devine à Wellick. « Ah, c'est une fameuse bête. N'est-ce pas, mamie, que nous sommes une fameuse bête ?» Il avait pris la bride et, tout en jasant, il tapotait le poitrail d'Awelic. « Veille à ce qu'elle ne se refroidisse point dans ton affreuse écurie et fais-lui donner un picotin d'avoine. Sois prompt, Dolo, j'ai à te parler. » Laissant sa monture aux mains de son ancien aide de camp, Margéo entra. Madame Dolo, comme on disait à Pontrieux, l'introduisit dans un étroit cabinet, espèce de cellule interlope qu'une table et 2 bancs garnissaient. Il y fut bientôt rejoint par l'ex-routier. « Dolo, » commença Margéo, quand ils furent seuls. « Tu m'écrivais il y a quelques jours. Le nouveau sous-patron, rien à craindre, une fille. Tu n'y vois goutte, mon brave. Cette fille est capable de venir à bout de moi si je n'y mets bon ordre. Comment l'appelles-tu, ce gringalet ?» Mezzu, est-il en ce moment au corps de garde? Je le crois. Va le trouver et prie-le de t'accompagner ici. Dis-lui que Margéo de Kerkabine désirerait l'entretenir. Peu après, Dolo amenait le douanier. Margéo et celui-ci se saluèrent cérémonieusement. Monsieur, dit Margéo, étant de passage à Pontrieux ce soir, j'ai tenu à vous rendre votre visite de l'autre jour. « Croyez qu'il n'y a aucune ironie dans mes paroles. La première fois que j'ai eu l'honneur de vous rencontrer, j'ai été absolument conquis par la correction de votre attitude, par la délicatesse de votre procédé. » Dolo s'était esquivé au premier mot, après avoir apporté de quoi boire. Margéo et le sous-patron demeuraient tête à tête. Le maître de Kerkabine reprit. « Trinquons ensemble, monsieur, à la mode de Bretagne. » Puis, brusquement, dès qu'ils eurent choqué leur verre, « Je vous demande votre amitié, voici la mienne. » Il jeta sur la table une bougette de grosse toile où tintèrent des pièces d'or. Le douanier fixa sur Margéo un regard qui lui fit baisser le sien. « Monsieur, prononça-t-il avec netteté, d'une voix tranquille où l'indignation perçait à peine, nous ne sommes pas en foire, que je sache. En tout cas, je ne suis pas à vendre. » Margéo devint pourpre. Une vague de sang monta de son cou de taureau à sa large face congestionnée. Il érigea en l'air son poing, son formidable poing, lourd comme la masse d'un forgeron, et l'abattit sur le crâne du gabelou. Le jeune homme s'affaissa, le torse renversé en arrière. Ce coup d'assommoir l'avait tué. Mais quand Margéo se pencha sur lui, ses yeux noirs dilatés attachaient encore sur l'assassin un regard étrangement direct et fier. Sans savoir pourquoi, Margéo tressaillit. Il appela de l'eau. « Ramasse cette bourse, lui dit-il, en lui montrant la bougette. Celui-ci n'en a pas voulu. D'ailleurs, elle ne lui servirait plus de rien. Il a son compte. Si on vient chez toi réclamer le gabelou, tu diras que tu nous as vus sortir ensemble, ce qui ne sera point un mensonge. » Margéo, saisissant le cadavre, l'emportait, en effet, jeté en travers sur ses puissantes épaules. Qui aurait été cette nuit-là sur la route de Pontrieux à L'Envolon et de L'Envolon à Saint-Brieuc, se fût signé d'épouvante et n'eût pas manqué de jurer le lendemain qu'il avait entreaperçu le cheval du diable, rapide comme la foudre et mystérieux comme la nuit. Margéo fut 2 jours absent de Kerkabine. Le 3e jour, il reparut au bout de l'avenue, monté sur sa bête de prédilection aussi fraîche qu'au départ. Il trouva les gendarmes installés chez lui et feignit une vive surprise. Le juge d'instruction aussi était là. Dans un coin, Nanik pleurait. « Monsieur Margéo, dit le magistrat en y mettant les formes, vous êtes accusé de meurtre. On a trouvé avant-hier, dans l'écluse d'un moulin en amont de Pontrieux, le cadavre du sous-patron des douanes Metzu, avec qui vous avez passé la soirée de vendredi à l'auberge de l'Encre Noire, s'il faut en croire le témoignage des hommes de service au corps de garde, corroboré par celui du cabaretier lui-même. Il est exact, monsieur le juge, que j'ai passé avec le sous-patron Metzu la soirée de vendredi, entre 9h15 environ et 9h30. Nous avons bu ensemble chez le cabaretier Dolo. Metzu, au sortir de l'auberge, me proposa de m'accompagner jusqu'à ce que je fusse hors ville. Nous nous séparâmes très cordialement à l'amorce de la route de L'Envolon. Il me souhaita bon voyage. J'allais à Saint-Brieuc d'où j'arrive, c'est tout ce que je puis vous dire. Faites venir le meunier de Milinverne, commanda le juge d'instruction à l'un des gendarmes. La porte de la salle s'ouvrit. Le meunier entra. « Reconnaissez-vous cet homme ?» lui demanda le juge en lui montrant Margéo. « Je vous l'ai dit, il n'y a que Margéo pour avoir cette force. Il a fait tourner le douanier au-dessus de sa tête et l'a lancé au beau milieu de l'étang. D'ailleurs, je suis sorti en entendant le plouf du cadavre dans l'eau et j'ai parfaitement vu le large dos de Margéo qui remontait la colline pour regagner la route. J'ai regardé à l'horloge du moulin. Il était exactement 10h20. Cette déposition est accablante pour vous, monsieur Margéo, observa le juge. Mon Dieu, monsieur le juge, vous interrogerez mon hôtesse de Saint-Brieuc. Je descends toujours à la Pomme d'Or. Comme j'ouvrais la porte, madame Véry priait les consommateurs de quitter l'estaminet parce que les 12 coups de minuit venaient de sonner et que c'était l'heure de la fermeture réglementaire. Margéo, dans la suite, fit preuve du même flegme imperturbable. Pas un instant il ne se départit de son calme. Tel il s'était montré le jour de ce premier interrogatoire, tel il demeura jusqu'à la fin du procès, tel il fut à la cour d'assises. Madame Véry, l'opulente hôtesse de la Pomme d'Or et les quelques buveurs qui étaient attablés chez elle le soir du crime attestèrent que, à minuit sonnant, Margeot faisait son entrée dans l'estaminet. L'avocat de l'accusé ne prit même pas la peine de plaider. « Messieurs les jurés, dit-il, je n'ai à vous poser qu'une question. La plupart d'entre vous êtes des éleveurs. Pensez-vous qu'un cheval si merveilleusement doué qu'on le suppose puisse abattre de 10h20 à minuit les 15 lieues qui séparent Milinverne de Saint-Brieuc ?» Margeot fut acquitté haut la main. Les habitants de Plouec lui firent une ovation. Mais à peine rentré à Kerkabine, son premier soin fut de renvoyer tout son monde. Il ne garda près de lui que Nanik. L'entreprise qu'il avait montée s'émietta. Il vécut désormais inabordable, en proie à une mélancolie farouche. Le jour anniversaire de la mort de sa victime, il trépassa. Il s'était fait préparer une tombe dans son jardin, avait prié le recteur de la bénir. On y coucha son cercueil énorme par une nuit de tempête et d'éclairs. En même temps que Margeot disparut à Wellick. On crut encore l'entrevoir quelquefois, bondissant au loin la crinière au vent, hennissant une longue plainte d'âme en détresse. C'est lui dont on continue d'entendre le pas sonore et souple dans la cour de Kerkabine. Il vient sans doute y chercher son maître Margeot, mort de tristesse pour avoir tué le jeune gabelou aux yeux noirs.